Womanop, le rendez-vous de l'empowerment féminin avec Edith Broubleu, 14h-15h sur Life Radio 107.7.
Elle a su se tracer un chemin dans un secteur d'activité réputé pour être celui des hommes. Par sa détermination, son ambition et surtout son sens du professionnalisme, elle écrit chaque jour les pages de son histoire, pour ne pas dire qu'elle bâtit son histoire, comme les concessions qu'elle propose à sa clientèle, parce que soucieuse du bien-être d'autrui. Olo Carole est notre invitée du jour. Elle est directrice générale de Créno Consulting, une agence immobilière. Elle est également présidente de la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier, CDAIM. Ensemble, nous allons tenter de savoir comment elle a pu s'imposer dans ce domaine d'activité, les armes que devrait avoir une femme pour y arriver. Vous êtes bien sur Woman Up, vous suivez Life Radio 107.7, on est samedi évidemment. A tout de suite.
Woman Up, le rendez-vous du leadership féminin. Woman Up, entre elles.
Bonsoir Carole.
Bonsoir Edith.
Comment ça va?
Bien, merci.
Magnifique, j'adore ton foulard Yakuba, c'est exactement ça?
Un petit coucou à notre culture.
Absolument, on fait un coucou également à la population de Mans et toute la région du Tampi.
Tampi, exactement.
Alors, bienvenue, tu es sur Woman Up, comme je disais, l'émission des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires, mais moi je te dirais que toi tu n'es pas ordinaire, hein. Tu es extraordinaire et tu fais des choses aussi extraordinaires parce que tu es dans un secteur d'activité en général, qu'on ne connaît pas, en tout cas, le commun des mortels ne connaît pas réellement, sauf quand on veut acheter une maison ou un bien immobilier. C'est là qu'on va faire appel à des personnes, des experts comme toi. Et là, aujourd'hui, on passe dans ce studio pour échanger avec nos auditeurs et nos auditrices, en tout cas pour qu'ils apprennent à découvrir ce secteur. Donc, tu es gestionnaire de patrimoine et expert immobilier.
Effectivement.
Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que tu fais au quotidien?
Bon, d'abord, il est important de définir l'immobilier.
D'accord.
Donc, l'immobilier est un secteur d'activité économique qui regroupe tout ce qui est la gestion, la transaction, l'expertise et aussi le conseil. Donc, l'immobilier, c'est un marché où on aura une offre et une demande. Donc, l'immobilier va tourner autour de tout ce qui est acquisition de biens, maisons, terrains. Ça va même plus loin. Tout ce qui est hôtellerie, industrie. Tout rentre dans l'immobilier.
Tout rentre dans l'immobilier.
Voilà. Maintenant, la fonction de gestionnaire de patrimoine, c'est-à-dire que au quotidien, nous avons un patrimoine qui appartient à une tierce personne. Nous gérons ce patrimoine. Donc, nous travaillons surtout à sortir une rentabilité et la pérennité du patrimoine est vraiment notre préoccupation.
Et c'est sur les ventes de ces patrimoines, en tout cas sur la gestion de ces patrimoines, que vous faites votre plus-value.
Exactement.
Vous prenez vos commissions.
Voilà, nous prenons des commissions mensuelles.
Mmh.
Et je prends un exemple simple. Par exemple, un client qui vient nous voir pour gérer un immeuble, on prendra des commissions mensuelles sur l'ensemble des appartements qui seront mis en gestion.
Et en moyenne, comme ça, je prends juste une moyenne. Ça ne concerne pas Créno Consulting, mais en moyenne, à Abidjan, on va dire. C'est quoi la moyenne des commissions sur ce type de
bien? En gestion, c'est 10%.
Donc, on 10%.
Voilà. On a 10% de commission sur le loyer mensuel. Donc, pour 100 000 francs, on a 10 000 francs par mois. Donc, plus vous avez énormément de gestion, plus, on va dire, l'enveloppe est conséquente.
Plus la quantité est importante.
Voilà.
Plus le jet est important aussi.
C'est ça.
Et lorsque tu parles de gestion de patrimoine, je veux dire, moi, je te confie mon patrimoine, mes villas, mes immeubles et tout, en dehors d'encaisser les loyers ou de faire des ventes, qu'est-ce que tu m'apportes concrètement en termes d'avantages?
D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je serai amène au quotidien de pouvoir suivre l'entretien de ton patrimoine. C'est-à-dire, éventuellement, je suis ton vis-à-vis avec les locataires. Donc, si un locataire a un souci, tout de suite, je vais interagir pour m'assurer que les travaux seront faits dans les délais. S'il y a des déclarations au niveau des structures étatiques, c'est-à-dire les impôts ou bien les compagnies de distribution d'eau et de courant. Donc derrière, nous allons suivre toutes ces démarches-là. Et au moins, tu as la garantie d'avoir ton argent, ton loyer
chaque
tous
mois.
Les mois.
Okay.
Parce que nous rendons à la fin de chaque mois des rapports à nos propriétaires. Donc ils savent exactement qu'est-ce qui s'est passé sur le bien. Et qu'est-ce qu'ils ont gagné, quels ont été les différents travaux. Nous faisons un décompte total. Donc, le propriétaire, il est sûr que tous les mois, il a son...
Donc, le propriétaire peut dormir tranquille.
Il peut dormir tranquille.
Et ton agence s'occupe de ça.
Tout. C'est-à-dire que même si un locataire ne paye pas son loyer, nous nous occupons de faire toutes les démarches administratives, juridiques et tout pour pouvoir permettre le paiement du loyer et ou l'exclusion du locataire.
Exactement.
Là, c'est vraiment les cas vraiment
extrêmes.
Extrêmes, voilà.
Où on n'a plus le choix,
On n'a vraiment plus le choix, oui.
Est-ce qu'on peut dire que l'agence immobilière et des agences immobilières également bâtissent des biens immobiliers ou bien c'est exclusivement, en tout cas dans ce cas, c'est exclusivement la gestion du patrimoine? Est-ce que vous bâtissez aussi?
Oui, nous bâtissons aussi. Nous avons parfois des clients qui nous contactent pour les accompagner dans la construction de programmes immobiliers. Donc, nous pouvons être amenés à travailler avec ces clients-là, dont la construction, le conseil, la programmation architecturale et fonctionnelle. Donc, ces documents même peuvent servir aux architectes plus tard pour sortir tous les plans et descriptifs et des QE. Et ensuite, nous restons toujours en arrière-plan avec le propriétaire pour le suivi des travaux. Et ensuite, la commercialisation de ces biens, puis la gestion.
On sent que c'est un secteur qui bouge énormément. Je vois beaucoup d'affiches publicitaires en ce moment. C'est vrai que tu me donneras aussi, il y a une différence, hein, on parle de promotion, d'agence et tout.
Oui, oui.
Mais on voit également beaucoup d'affiches de promotion immobilière et tout, d'agence et tout. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant d'intérêt en ce moment pour les biens immobiliers, la construction immobilière?
Bon, il faut dire que déjà en Côte d'Ivoire, il y a un réel boom économique.
Mmh.
Et ensuite, après la crise, aujourd'hui, on a beaucoup de facilité avec les banques pour avoir des prêts immobiliers.
Okay.
Et la question du logement reste une question importante pour le gouvernement. Donc, tout le monde sait qu'à un certain moment, je travaille, j'ai besoin forcément de me loger.
Bien sûr.
Et quelles que soient les années, il y aura toujours cette question du logement qui va se présenter. Donc, c'est à cause de tous ces facteurs-là qu'aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs aujourd'hui qui s'investissent dans la promotion immobilière. Et ou en agence immobilière, mais agréée. Je précise parce qu'en Côte d'Ivoire, sur le marché, faudrait faire quand même la différence entre agence immobilière agréée et agence immobilière qui a juste pignon sur rue.
La différence, en fait, c'est que...
Les agréés, nous sommes reconnus par l'État de Côte d'Ivoire.
C'est ça.
Et ceux qui ne sont pas agréés, on va dire qu'ils sont dans l'illégalité, ou bien donc, dans l'attente de leur agrément pour ceux qui ont fait la demande.
Donc, sachant que je suis présidente de la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier, c'est-à-dire qu'il y a un site web, votre site web, sur lequel on peut trouver toutes les agences immobilières agréées.
Effectivement.
En Côte d'Ivoire.
Donc, nous avons un site web. Je ne sais pas si je peux le donner.
Oui, bien sûr, absolument.
Pour le moment, il va être bientôt en réforme parce que j'ai été élue il n'y a pas très longtemps.
Vive la nouvelle présidente.
Merci.
Félicitations.
Merci. Donc, c'est proimo.com. Oui. Et au niveau de la chambre qui est la CEDAIM, la chambre du droit des affaires et de l'immobilier, nous réunissons plus de 200 agences immobilières agréées sur l'ensemble du territoire ivoirien. Parce qu'aujourd'hui, il y a des agences sur Abidjan, sur San Pedro, sur Abengourou, sur Boaké. Et on travaille à ce qu'il y ait plus d'agences sur toute l'étendue du territoire. Et nous, ce que nous faisons, c'est que nous, en plus de fédérer les agences immobilières agréées, nous proposons... des formations même aux personnes qui voudraient se renforcer leurs capacités dans le secteur de l'immobilier.
Ok. Et donc, je parlais de promotion immobilière. Tu me parles d'agence immobilière. En discutant en off, on parlait du fait qu'il y avait de plus en plus de femmes et que je voyais aussi de plus en plus de femmes dans la promotion immobilière. Et tu m'as dit qu'il y avait une différence. C'est quoi la différence entre une agence immobilière et un promoteur immobilier?
D'accord. Donc, le promoteur immobilier est un professionnel du bâtiment, de l'immobilier, donc qui va, lui, plutôt travailler sur un projet immobilier dans le but uniquement de le vendre pour avoir une rentabilité. Ça s'arrête là, la promotion immobilière.
Il construit, il vend.
Il construit sur plan. Dans notre langage, on parle de VEFA, vente en état futur d'achèvement. C'est-à-dire qu'il va construire, il va proposer un projet et les acquéreurs achèteront sur plan.
Mm-hmm.
Ils verront que les plans et progressivement.
En fait, la maison
n'existe pas encore.
C'est qu'un dessin, en fait.
C'est qu'un dessin.
Oui.
Et maintenant, l'agence immobilière agréée, elle va plutôt travailler à la gestion. Et même lorsqu'il y a des promotions immobilières, nous commercialisons.
OK.
Nous commercialisons. Donc, l'agence immobilière, elle fera plusieurs activités. Hein. Hormis la gestion, lorsqu'elle rentre dans la gestion, il faut séparer. Il y a la gestion locative. Qui est juste la gestion locative, comme on le connaît, et la gestion de copropriété.
Mmh.
Donc là, on parle de syndic.
OK.
Voilà. Ensuite, l'agence immobilière va être aussi un intervenant dans la transaction au niveau des locations, des ventes et des achats.
OK.
L'agence immobilière va être aussi un conseiller. L'agence immobilière va être un évaluateur.
Alors, l'agence immobilière fait beaucoup de choses.
On va même parfois proposer des services à la personne.
Mmh.
Il y a la notion de conciergerie et autres.
Oui.
Donc, C'est vraiment très vaste.
Donc une promotion, un promoteur immobilier ne peut pas être une agence immobilière.
Il ne peut pas être une agence
immobilière. C'est-à-dire qu'il finit de construire, il finit de me livrer ma maison, ma villa, mon appartement. Mm-hmm. Et ensuite, normalement, c'est l'agence immobilière qui prend le relais.
Le relais, surtout si c'est une promotion immobilière vaste, il faut toujours un syndic.
OK.
Donc l'agence immobilière va venir régler toute la vie de la copropriété au quotidien.
Vous maintenez le bâtiment en l'état également.
Le bâtiment ou la cité.
Ou la cité.
Voilà.
Est-ce que les promoteurs immobiliers également leur chambre?
Oui.
Ils sont bien organisés aussi.
Et je sais de mémoire qu'il y a au moins deux ou trois chambres de promoteurs immobiliers.
Mm-hmm.
Après, on va pas vraiment ma cuisine.
on va se concentrer sur les agences immobilières.
Très bons amis.
Mais j'imagine. Alors, comment on se lance? Quelles études il faut suivre pour se lancer dedans? Parce que je sens, en tout cas dans ce studio, on sent que c'est juteux. Les biens immobiliers, la gestion des biens immobiliers, c'est très juteux. Alors, comment? Est-ce qu'il y a des études spécifiques à suivre?
Oui.
Est-ce que si on est passionné de ce secteur, à un moment donné, on peut avoir une reconversion professionnelle et aussi se lancer dedans. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il faut faire si moi je veux devenir, en tout cas je veux avoir une agence immobilière, je veux me lancer dedans?
D'accord, donc pour faire de l'immobilier déjà au niveau national, au niveau de Créneau Consulting, nous proposons des formations immobilières. Mm-hmm. Et au niveau international, il y a énormément d'écoles qui proposent la formation immobilière.
Mm-hmm.
Donc, c'est possible de faire de la formation.
Ah, il y a beaucoup d'écoles qui proposent.
Oui, il y a beaucoup d'écoles.
Okay.
Même ici sur la Côte d'Ivoire, nous proposons même nous-mêmes en interne aussi la formation.
D'accord.
Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu, je sais pas si je peux raconter tout mon
parcours. Oui, bien sûr.
Quand j'ai eu mon baccalauréat, je suis partie sur Paris parce qu'il n'y avait pas d'immobilier sur la Côte d'Ivoire de formation immobilière. Et j'ai atterri d'abord en école d'architecture, à l'ESA de Paris. Puis, j'ai toujours voulu faire des choses de manière différente.
Bien sûr.
Donc, je me disais, mais je vais revenir en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas rester assise dans un bureau à dessiner toujours des plans, bien rester que sur le chantier.
Tu voulais être sur le terrain.
Je voulais être sur le terrain constamment, mais une businesswoman.
Ouais.
Voilà. Donc, ça
se sent, ça se voit, là.
D'aller plus loin. Et c'était difficile à l'époque pour moi d'avoir des stages. Donc, du coup, je suis repartie sur Paris et là, j'ai découvert l'immobilier lors d'un salon.
Ouais.
Et je me suis inscrite dans l'école. Et j'ai commencé ma formation. Mmh. Donc, j'ai obtenu un titre de gestionnaire d'affaires en immobilier. Puis, j'ai fait un master en audit conseil et expertise immobilier. Et je suis repartie encore pour faire une formation pleine en gestion de patrimoine immobilier.
Mmh.
Puis, je suis revenue sur la Côte d'Ivoire. Donc, en venant sur la Côte d'Ivoire, j'ai commencé à lancer des formations immobilières.
Oui.
Bon, aujourd'hui, il y en a pas mal qui le font, mais... l'initiatrice des premières formations immobilières sur la Côte d'Ivoire.
Et on sent qu'il y a un engouement, et les gens viennent se former, ils sont intéressés par ce secteur.
Oui, parce, pourquoi? Parce que vous savez, on a énormément de textes de loi et il est important de bien les maîtriser. Certains se disent que non, si j'ai fait du droit simple, ça suffit. Mais non, il y a le droit immobilier. On a le droit immobilier qui permet d'avoir toutes les informations sur comment gérer un bail d'habitation, un bail commercial, un bail professionnel... comment gérer même au quotidien une agence, il y a beaucoup d'informations. Après, la gestion immobilière elle-même, elle est complètement différente. Parce que gérer une agence immobilière, ce n'est pas pareil que gérer une radio.
Bien sûr.
Voilà, il faut bien maîtriser cela. Et on s'est rendu compte aussi que les gens, les mentalités changent.
Mmh.
Avant, c'était je suis père de famille, je gère mon patrimoine, je gère le patrimoine de la famille.
Bien sûr.
On s'est rendu compte qu'il y avait tellement d'arnaques. Donc les gens aujourd'hui cherchent des personnes professionnelles qui pourrait leur permettre d'avoir une rentabilité. Parce
Absolument.
Que qui dit immobilier dit retour sur investissement.
C'est le but.
Donc, il faut comprendre comment ça fonctionne au travers de la formation pour pouvoir demain se lancer.
Est-ce que quelqu'un comme moi, je veux dire, même si je n'ai pas envie de devenir, d'être une agence immobilière ou d'être un expert en immobilier, mais en tant que personne lambda et qui a des biens, par exemple, immobilier.
Oui.
Est-ce que je peux venir me former juste pour avoir une certaine idée de comment ça fonctionne?
Bien sûr.
Les textes de loi ou ce genre de choses?
Bien sûr, c'est possible parce que nous proposons des formations à la carte, ce genre de cas. Donc, en immobilier, on n'a pas vraiment besoin d'avoir un gros background.
Oui.
Il faudrait juste savoir lire, écrire et puis comprendre les choses.
Exactement.
Et à ce moment-là, lorsque vous faites la formation, des formations de 1 mois et demi, 2 mois que nous proposons, parce qu'une formation de une journée, c'est insuffisant.
Non, totalement insuffisant. C'est comme si tu surfais rapidement.
Donc, c'est possible, au fait. Donc, quiconque est intéressé par l'immobilier peut intégrer l'immobilier, mais il faudrait absolument se former. Déjà, même au moment de la demande de l'agrément, En tant qu'agence immobilière, le ministère est très strict là-dessus.
Absolument.
Il faut apporter la preuve de formation, d'une formation en immobilier.
Ça montre que le secteur est réglementé, que le secteur est suivi par les autorités.
Suivi,
parce que le plus important, c'est de protéger les populations des arnaques.
Voilà.
Et ça, ça passe par également l'existence depuis 58 ans. On va en parler aussi dans la deuxième partie de l'émission. Donc, de l'existence depuis 58 ans de la Chambre de droit des affaires de l'immobilier, dont tu es la nouvelle présidente.
Oui.
On se retrouve dans quelques instants, juste une petite pause. Je suis toujours avec Carole Holo, donc qui est la présidente de la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier CDAIM et qui est également la directrice de l'agence Créneau Consulting. À tout de suite.
Woman Up sur Life Radio. Woman Up, elle active.
Nous sommes de retour dans la deuxième partie de l'émission, Elle Active, et nous sommes toujours avec Carole Holo, qui est directrice générale de l'agence immobilière Créneau Consulting et qui est également présidente de la CDAIM, donc la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier. C'est très très passionnant cet échange que nous avons avec elle et j'espère que vous appréciez. C'est extrêmement instructif. Comme on disait, l'immobilier, c'est un secteur qu'on voit peut-être de loin, même si on a déjà eu à faire des transactions, vous payez des loyers, vous achetez des terrains et tout. Mais lorsqu'on est au cœur du système, il y a beaucoup de choses qu'on découvre et c'est le cas avec Carole et avec tout ce qu'elle nous explique en ce moment. Et là, on parlait de d'agences et de promoteurs immobiliers, donc tu expliquais un peu la différence entre ces deux corporations et surtout on parlait de ce boom immobilier donc à Abidjan mais aussi à l'intérieur du pays et tu donnais les raisons. Quelles sont qu'est-ce qu'il faudrait prendre en compte lorsqu'on décide d'acheter par exemple un bien ou un terrain ou ce genre de choses pour ne pas se faire avoir, on va dire, parce que je veux acheter ou je veux construire un bien, mais surtout acheter un bien et ensuite je veux le confier à une agence comme la tienne. Quels sont les pièges à éviter et les informations à absolument avoir pour ne pas se retrouver dans une histoire compliquée?
D'accord, donc au niveau de l'achat, il faut faire le distinguo. On va prendre un exemple très simple, si je veux acheter un terrain par exemple. Aujourd'hui, si c'est un terrain d'abord que je prends avec une attestation villageoise, on va faire plus simple. Il y a le guide villageois.
Oui.
Donc on part vers le chef du village pour vérifier dans le guide du village si effectivement le vendeur est bien enregistré, le terrain est bien enregistré.
D'accord.
Donc ça c'est le premier point. Ensuite, si c'est un terrain qui a un ACD, on a la possibilité de partir au niveau du ministère de la Construction pour vérifier l'identité du propriétaire de cet ACD-là. Mmh. C'est un service que le ministère fait logiquement sans souci. Ensuite, nous, en tant qu'agence immobilière, nous, ce que nous faisons de toute façon, c'est que nous demandons, dans le cas où un propriétaire voudrait mettre son bien en vente, nous allons, nous, vérifier l'identité du propriétaire. Nous assurer que ce n'est pas une personne qui a pris le bien d'une personne lambda qui voudrait vendre le bien et puis faire...
Quelles sont les informations que tu demandes à cette personne qui décide de venir te déposer, te confier son patrimoine à gérer? Qu'est-ce que tu lui demandes comme document?
D'accord. D'abord, je lui demande sa pièce d'identité. Je lui demande éventuellement son statut marital parce qu'il y a des personnes qui sont mariées
et qui vendent...
De la communauté de biens qui vendent le patrimoine immobilier sans informer madame ou monsieur. Donc, on ne peut pas faire de vente sans l'accord des époux lorsque c'est une communauté de biens.
Absolument.
Voilà. Donc, lorsqu'on a ces documents-là, par la suite, on demande tout ce qu'il a comme documents sur le terrain. Extrait topo, titre foncier. Et nous, derrière, avec l'avis d'imposition, bien sûr, et derrière, nous rapprochons soit du ministère de la Construction et des impôts pour vérifier vraiment que c'est bien le propriétaire du bien. Par la suite, une fois que tout est OK, nous procédons à une signature d'un mandat. Donc, il nous donne un mandat officiel dans lequel est stipulé que nous avons le droit de vendre le bien, de faire toute publicité derrière ce bien pour la vente. Nos commissions sont effectivement enregistrées.
Bon, on a une idée. On est en moyenne à 10% de commission.
C'est 10%, c'est...
En moyenne.
Non, c'est pas pour tout en matière de vente, c'est entre 5 et 10%.
Ah, en matière de vente, pas de location, c'est entre 5 et 10%.
Ça dépend.
Ça ne dépasse pas 10%.
Non. À moins que le propriétaire soit généreux, mais non.
Ok, d'accord. Ah, c'est une discussion, en fait, avec le propriétaire et tout.
Voilà. Sinon, légalement, on reste entre 5 et 10%.
Ok. Voilà.
Pour la vente.
Voilà. Et donc, On a toutes ces informations. En tout cas, du côté de propriétaire, on est certain que le bien qu'on a acquis est, et on est en règle avec voilà. le bien qu'on a acquis, que la personne ne nous a pas arnaqué. Et ensuite, on vient vous voir, vous allez nous demander, en tout cas, tous les documents que tu as cités, surtout l'avis d'imposition. Souvent, en matière d'immobilier, on oublie cet aspect, l'impôt.
Oui. L'impôt.
Qu'est-ce qu'on doit savoir lorsqu'on est propriétaire d'un terrain ou lorsqu'on est propriétaire d'une maison qu'on a nous-mêmes bâtie? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur l'impôt?
Déjà, il est très important de payer ses impôts.
Reminder,
il est très important de payer ses impôts.
Payez vos impôts, payons voilà. nos impôts.
Et au niveau d'un bien immobilier, parfois, en matière locative par exemple, vous pouvez vous rendre compte que l'impôt va nous fixer une comment je peux dire une taxe à payer.
D'accord.
Donc ce montant peut correspondre à peu près au montant sur le terrain que nous pratiquons pour notre location. J'explique simplement. L'impôt me dit que je dois payer par exemple 100 000 francs. Ils estiment que mon bien a une valeur de 100 000 francs, mais moi je le loue à 50 000 francs. Et lorsqu'il y aura une comment je peux dire un contrôle fiscal. Si les impôts se rendent compte que je paie 50 000 francs au lieu de 100 000 francs, je peux être sujet à une amende.
Moi, en tant que propriétaire.
Voilà. Et en plus, pour le savoir, les impôts aujourd'hui vous demandent de fournir les contrats d'habitation.
Les contrats d'habitation.
Les contrats d'habitation.
Voilà. Avec la personne à qui vous louez
effectivement.
Le bien.
Donc, ça leur permet, eux, de voir à peu près si vous voulez contester. C'est avec le contrat d'habitation que vous pouvez contester pour dire non, je ne paye pas 50, enfin, je ne reçois pas 50, je reçois 100.
Mais je ne veux pas t'interrompre. Hein. Je veux dire, j'ai mon appartement, j'ai ma villa, et moi j'estime que ma villa que je loue peut-être aux deux plateaux ou à Angrais, je la loue à 500 000 francs.
Oui.
Et les impôts considèrent que dans la zone où je me trouve, je devrais la louer à 1 million. Comment ça fonctionne exactement? Sur quelle base les impôts veulent se dire non, vous ne devrez pas louer ce bien à 500 000, qu'il devrait être loué beaucoup plus cher.
D'accord. Ce que déjà, en tant qu'agence immobilière agréée, ce que nous faisons lorsqu'on a ce cas de figure, par exemple avec les propriétaires, parce qu'il y en a qui peuvent vous dire on veut 500 000, on veut 1 million, nous avons pour obligation de faire une évaluation du bien.
Ça, c'est le rôle de l'agence immobilière, de conseiller le propriétaire.
Voilà. Donc, il y a plusieurs méthodes d'évaluation, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais au moins, on conseille du moins le propriétaire sur un prix. Et ce prix va correspondre à des biens, comment je peux dire ça, des biens similaires dans la zone à son bien. Donc, par exemple, si vous avez une villa duplex de 3 pièces et que dans la zone, ces villas sont louées à 400, à 500, à 600, nous allons vous dire, écoutez, madame, louez votre bien entre 400 et 600. Parce que les impôts aussi, lorsqu'ils établissent leur grille d'imposition, ils ont d'autres barèmes à eux, des calculs à eux, mais ils essaient quand même de rester sur des prix pratiqués dans la zone.
Donc en fait, ils s'alignent sur la moyenne des prix
exactement,
dans la zone d'habitation.
Voilà.
Si c'est 50 000 francs dans la zone d'habitation, en moyenne,
ils restent dans ces prix-là.
Ils restent dans ces prix-là. Ok, d'accord. C'est bon à savoir. Donc en fait, si les propriétaires décident de s'aligner sur un prix dans la zone, ils peuvent monter par exemple le prix en disant ok, ah, on s'assoit. Voilà. Bon, ça c'est vraiment pas extraordinaire, mais ça permet de comprendre en fait sur quelle base
les impôts
décident.
Le plus simple, c'est la méthode par comparaison. Je veux faire louer mon bien. Je regarde dans le quartier à combien à peu près les biens sont loués. Je regarde un peu, je complète avec d'autres informations. Est-ce qu'il y a par exemple un pont? Est-ce qu'il y a une boutique? Est-ce que la voie est bitumée? Est-ce qu'il y a le courant, l'eau, le voilà. On regarde tout ça et puis on essaie de rester dans une fourchette de prix.
Aujourd'hui, à Abidjan, quelle est la zone qui coûte la plus chère par mètre carré?
Oula, la zone du plateau, zone 4.
En moyenne, combien par mètre carré?
Zone 4, on peut même partir au minimum avec 1 million le mètre carré.
Oui. Je vais m'évanouir. 1 million par mètre carré en zone 4.
Au moins, oui.
Waouh.
Oui.
Ça vaut cher le mètre carré. C'est dû à quoi exactement?
Bon, zone 4, on va dire que c'est pas très loin de l'aéroport. Il y a énormément d'expatriés. Il y a beaucoup de services. C'est une zone prisée, au fait. Voilà, une zone semi-résidentielle, en même temps commerciale. Donc, tous ces facteurs. Puis, il y a beaucoup d'immobilier neuf en zone 4.
On constate qu'il y a beaucoup. On peut avoir un immeuble qui a été construit peut-être il y a 2 ans, qui est carrément démoli, on reconstruit un autre immeuble là-dessus. On a l'impression que c'est un rythme qui ne s'arrête pas, en fait. Ça bouge énormément dans cette zone.
Oui, et c'est tous ces facteurs jouent vraiment sur le coût au mètre carré. Par exemple, bon, si je me déplace vers Yopougon, mm-hmm. ou bien à Bobo, à Niama, tout de suite les prix baissent un peu plus.
Oui.
Quand je pars à l'intérieur du pays, c'est même pas la peine.
Ce sont les soldes, on a encore la chance là-bas.
Bon, c'est normal parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités économiques dans la zone.
C'est ça.
Abidjan, tout le monde le sait, on a tout à Abidjan.
Mmh.
Mais lorsqu'on prend une ville, par exemple, comme là récemment, j'ai fait une étude pour un client sur Boisfli. Et le terrain était quand même bien situé à un carrefour entre Boisfli, Yamsokro et Dalois. Mais le mètre carré, là-bas, c'est 3000 francs le mètre carré.
Oui, comme à, je pense à Danané également,
voilà,
3000 francs le mètre carré.
C'est des prix comme ça. Et ça dépend en fait de qu'est-ce que la zone propose.
Mmh.
Mais si demain Boisfli devient une ville
il sera
à forte expansion,
bien sûr,
les prix vont monter.
Bien sûr.
Voilà. Aujourd'hui, quand on quitte Abidjan, on va vers Bassam, Assini. Ce sont des zones qui coûtent cher à cause de la mer.
Bien sûr.
À cause du fait que tout le monde veut habiter Assini aussi. Aussi, il faut dire, parfois, l'identité des habitants joue un peu sur la zone.
Ok.
Si vous avez, par exemple, un footballeur qui s'installe demain dans votre quartier,
bien sûr, ça prend de la valeur.
Ça prend de la valeur. Enfin, un footballeur connu, hein.
Donc, j'imagine si Droba décide d'avoir sa maison, une autre maison, sa maison secondaire à Yamsokro, dans une zone de Yamsokro, la zone va prendre de la
le
valeur.
Le quartier va tout de suite prendre de la valeur.
Ok, voilà. C'est très intéressant. Oui. Et quelle est la zone la moins chère à Abidjan, en mètre carré? Vraiment la moins chère de chez moins cher.
Bon, je dirais Yopougon.
Yopougon.
Non, Abobo peut-être. Abobo et Yopougon quand
Abobo.
Même. Parce que Yopougon est assez vaste. Il y a plusieurs quartiers. Il y a des quartiers résidentiels à Yopougon,
mm-hmm.
qui sont un peu plus élevés quand même. Mais je dirais, permettez que je donne au moins deux.
Oui, bien sûr.
Yopougon et Abobo.
Yopougon et Abobo.
Voilà.
En tout cas, on peut bâtir encore là-bas.
On peut bâtir encore.
Le mètre carré coûte pas cher.
Pas
et
cher,
tout,
voilà.
Et
tout. C'est bien.
Allez-y, c'est. Et puis voilà, en plus, on aura l'échangeur à Abobo qui sera construit. C'est des zones qui vont beaucoup évoluer. On a le quatrième pont.
Voilà.
Aussi.
Mais attention, déjà avec le quatrième pont, la zone proche du quatrième pont a commencé à prendre de la valeur.
J'imagine.
Donc ça fait que, comme je disais, c'est uniquement à cause des facteurs qui viennent se rajouter.
Mm-hmm.
Comme on dit, les commodités.
Mm-hmm.
Plus il y a de commodités, plus le terrain ou la zone prend de la valeur.
Prend de la valeur.
Voilà.
Donc il faut étudier. Il faut prendre conseil avec l'agence immobilière aussi pour savoir les zones fort potentiel.
Voilà.
Pour pouvoir également
déjà
acheter.
Même nous au niveau de la chambre, j'ai initié une commission dénommée statistiques et données qui va permettre à toute personne désireuse d'avoir une information sur l'immobilier en Côte d'Ivoire, de pouvoir avoir les prix au mètre carré en matière de vente, les prix pour les locations, même peu importe.
Mmh.
Une personne qui veut investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire aujourd'hui pourra avoir ces informations là chez nous.
Ça sera gratuit?
Ça va dépendre.
Bon, je sais que pour moi, ça sera gratuit. Donc, j'aurai ces données-là. Alors, on va s'intéresser à la Chambre du droit et des affaires de l'immobilier dont tu es la nouvelle présidente.
Oui.
Tu m'as dit que cette chambre, cette corporation existe depuis 58 ans.
58 ans.
Et tu es, en 20 ans, tu es la deuxième femme à prendre
la
tête.
Troisième.
La troisième femme
la troisième.
À prendre la tête de cette institution. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi?
Oula, il faut dire que c'est un... C'est un gros challenge pour moi, parce que de l'immobilier a toujours été ma passion. Et lorsque je suis rentrée sur la Côte d'Ivoire, lorsque j'ai lancé par exemple le centre de formation immobilière, je voulais vraiment impacter le développement de l'immobilier sur la Côte d'Ivoire. Donc là, être aujourd'hui à la tête de cette chambre, c'est une belle occasion pour enfin pouvoir, étendre
ton influence.
Voilà.
Ton expertise.
Mon expertise. Et puis j'espère vraiment contribuer réellement au développement de l'immobilier. Et puis au professionnalisme du secteur.
Avec les femmes, c'est toujours professionnel,
oui.
Bien sûr.
Non, mais il faut.
et qu'est-ce qu'on doit savoir sur cette chambre? Quels sont les intérêts que vous défendez pour vos membres?
Aujourd'hui, la chambre regroupe à peu près 200 agences agréées.
200
du coup,
agences agréées.
J'invite toutes les agences immobilières non agréées encore à faire la demande de l'agrément et à intégrer la chambre. Et la Chambre a pour vocation de défendre les intérêts de ses adhérents, mais aussi, surtout, travailler au respect des règles. C'est-à-dire, parce qu'il y a un cadre juridique aujourd'hui sur l'immobilier, il y a le code de la construction qui date du 26 juin 2019. Et ce code de la construction nous présente tous les aspects de l'immobilier sur la Côte d'Ivoire. Donc la Chambre travaille vraiment au respect de ces règles-là. Et aussi, la Chambre accompagne le gouvernement dans l'organisation de l'immobilier, surtout en matière de baux d'habitation, bail commercial, en matière aussi de réglementation de la fonction d'agent immobilier sur le territoire.
Et vous, j'imagine que vous vous auto-régulez également. Est-ce qu'il y a eu, pendant ces années de fonctionnement au sein de votre institution, votre corporation. Il y a eu des membres qui ont été éjectés pour mauvaise conduite envers des clients ou envers la réglementation.
Bon, j'avoue que j'ai pris le poste il n'y a pas très longtemps, mais certainement il y a dû avoir, parce qu'au niveau du code de la construction, on a des articles qui énoncent qu'en cas de mauvaise conduite ou bien d'action, je prends un exemple simple, de détournement de fonds ou autre, systématiquement le membre est exclu, on lui retire son agrément et puis il peut même aller en prison.
Ok. Oui. Et on parle ces dernières années, ça sera la mini-conclusion avant qu'on passe à la deuxième partie de cette émission. On a eu malheureusement beaucoup de cas de blanchiment d'argent. Comment vous arrivez à identifier que quelqu'un qui vient vous donner en gestion son bien immobilier, que ce bien immobilier n'est pas issu d'une opération de blanchiment d'argent?
Bon, il faut dire que déjà à mon niveau, la Chambre a eu à être invitée à une formation. Elle avait été initiée par le ministère de l'Économie et des Finances, en collaboration avec l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire et l'Institut du droit et droit international. Donc, il s'agissait pour nous effectivement de maîtriser les méthodes de reconnaissance de potentiels clients ou potentiels vendeurs dans le but de dénoncer dans le but de reconnaître surtout les blanchiments de capitaux. Vous savez, on a comment nous fonctionnons. Lorsqu'un client vient vous voir avec un sac d'argent qui dépasse déjà le million, il est préférable, et tous ceux qui sont dans la profession le savent, il est préférable de demander que les paiements se fassent par virement bancaire ou par chèque.
Okay.
Moi, par exemple, dans mon agence, au-delà de 100 000 francs, je ne prends plus d'espèces.
D'accord.
Je refuse catégoriquement. Je voudrais toujours que les personnes fassent directement elles-mêmes le dépôt à la banque.
Exactement.
Elles me ramènent juste le reçu. Ou bien elles me font un chèque ou un virement. Donc ça, c'est l'une des méthodes qu'on a mis en place. Après, on ne peut pas contrôler tout le monde.
Bien sûr.
Mais pour le peu déjà, c'est de tout de suite voir aussi comment est-ce que le bien a été construit.
Exactement.
Quand je dis ça, c'est est-ce qu'il a eu un apport personnel? Est-ce qu'il a eu un prêt bancaire?
Oui.
Parce que quelqu'un qui, par exemple, vous sort un matin un milliard pour vous dire « je vous construis un immeuble d'habitation », bon...
C'est pas son épargne.
C'est pas son épargne, donc forcément, on doute un peu.
On se pose des questions.
Mais tout de suite, nous, lorsque nous faisons des mandats et qu'on a des clients comme ça qui construisent des biens et nous demandent de les gérer par la suite, on va vraiment s'occuper de mettre des locataires dedans. Parce que je ne vous cache pas que lorsqu'on faisait ces formations, on a découvert qu'il y avait par exemple des clients qui mettaient des biens en location, déclarés aux impôts, et il n'y avait personne.
Oui, ça, j'en ai entendu parler.
En tant qu'agence immobilière agréée, ce que nous faisons, c'est que tous nos contrats sont systématiquement enregistrés aux impôts.
C'est ça.
Donc, et lorsque les impôts s'approchent de nous, que nous avons la gestion, au moment des contrôles fiscaux, on ressort ces contrats-là pour leur dire voici ce que nous avons en notre possession.
C'est ça.
Voici la preuve que l'immeuble est bel et bien rempli ou pas.
Il y a des locataires.
Et on leur sort, à leur demande bien sûr, les informations dont ils ont besoin.
Exactement.
Donc on a un travail de transparence au quotidien avec, avec les impôts, avec le ministère de la Construction, avec tout ministère qui voudrait avoir des informations sur un client lambda. C'est notre obligation. Et après, il faut dire qu'en tant qu'agence immobilière, il y a une certaine déontologie à respecter.
Bien sûr.
On a pour obligation d'être, comme je disais tout à l'heure, intègre.
Exactement.
Et travailler dans la transparence. Maintenant, bon, après, quelqu'un qui détourne des fonds, c'est pas de
notre fête. C'est vrai qu'on aura beau mettre tous les garde-fous. On aura beau mettre tous les garde-fous possibles. Voilà. Mais le plus important, c'est que vous, en tant qu'autorité, on va dire institution et corporation, vous mettez des balises, alertes pour ne pas tomber dans ces histoires de blanchiment d'argent.
Nous faisons tout pour demander le maximum d'informations. Exactement. À nos clients, et par la suite, s'il y a un contrôle.
Oui. Vous êtes protégé.
On est protégé.
Exactement. Voilà. En tout cas, c'est bon à savoir, et surtout, surtout pour nos auditrices et nos auditeurs qui ont envie d'en savoir plus, c'est le moment. Restez connectés. On se retrouve dans la deuxième partie et la dernière de cette émission qui est super intéressante, comme je disais, et très instructive. On se retrouve tout de suite, juste après cette pause musicale. Vous êtes bien sur Womanop, émission des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires.
Womanop sur Life Radio.
Nous sommes de retour pour cette deuxième et dernière partie de l'émission. Encore 10 minutes avec notre invité, mais je trouve que c'est tellement insuffisant parce que c'est tellement intéressant. Et j'imagine que vous, auditrices et auditeurs, vous apprenez depuis le début de cette émission avec Carole Lowe, donc je rappelle, qui est la présidente de la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier de Côte d'Ivoire, une institution qui existe depuis 58 ans. Et elle est également gestionnaire de patrimoine et expert immobilier, donc directrice générale de l'agence Créneau Consulting. Et avec elle, on parle de tous les aspects du métier, du secteur de l'immobilier, les agences, les promotions immobilières. Qu'est-ce qu'il faut vérifier avant d'acheter un bien immobilier, avant d'acheter un terrain, avant de louer. Bref, c'est super intéressant. Et on échangeait en off sur les locataires. Oui. Est-ce que les locataires, je veux dire les personnes lambda, s'ils ont un litige avec un propriétaire, ils peuvent aller vers la chambre que tu présides pour pouvoir être écoutés, être entendus et que vous fassiez par exemple la médiation?
Effectivement, au niveau de la chambre, on a une commission éthique, arbitrage et discipline. Donc cette commission est en charge effectivement de régler ce genre de litige. On part sur des accords à l'amiable. On voudrait quand même permettre aux gens de pouvoir régler ces problèmes avant de... pour éviter le tribunal.
Bien sûr,
si c'est toujours mieux d'éviter le tribunal. Mieux. Donc les locataires peuvent nous approcher, comme les propriétaires, comme les agences immobilières agréées, même celles qui ne sont pas agréées, elles peuvent nous approcher. Bon, bien sûr, on va leur demander de tout faire plus tard pour être agréées, être membre de la chambre, pour bénéficier de tous les avantages d'être membre de la chambre. Donc, un locataire peut venir nous voir. Je prends un exemple simple. Juste hier, j'avais un locataire qui avait un souci avec son propriétaire. Le locataire voulait que le propriétaire fasse des travaux. Parce que pendant la période de pluie, l'eau s'infiltrait constamment dans la maison. Mais ce n'était pas des petites gouttes d'eau. Hein. C'était vraiment
un vrai déluge
dans la maison. Et il leur manquait juste une sorte de clôture. Donc, le propriétaire qui n'avait pas fait les travaux... pour des raisons de santé. Après, dans la conciliation, j'avais compris ça. Donc, lorsque je les ai reçus, on a réussi à trouver un accord. Donc, finalement, l'agence va repartir vers le propriétaire. Ils vont faire les travaux. Ils vont nous redonner les dates de démarrage et de livraison de la maison. Le locataire pourra enfin jouir pleinement de sa location.
Et donc le propriétaire a donné un délai au locataire pour la réalisation de ses travaux.
Voilà, il va donner un délai.
Exactement.
Voilà. Donc ce sont des choses comme ça que nous réglons. Des fois, il y a des agences immobilières aussi qui ont des préoccupations avec des propriétaires. Ça peut être des préoccupations sur peut-être le versement de leurs honoraires, parce que ça arrive. En général, nous prenons directement à la source. Donc, en fait, nous réglons tous ces cas.
Vous faites de la médiation entre les locataires, voilà.
Propriétaires, agences, agréées ou non. J'avoue que le non agréé me dérange un peu parce
qu'il faut être agréé.
Je voudrais vraiment que toutes les agences aujourd'hui en Côte d'Ivoire fassent leur demande d'agrément.
C'est très important.
Voilà, c'est très très important.
Et il faut rappeler, hein, pour les locataires qui nous écoutent, lorsque vous payez votre loyer, ne le payez pas en cash. En tout cas, même si vous le payez en cash, demandez une quittance de loyer.
Oui.
Le plus important, c'est soit de payer par mobile money, si c'est pas possible par virement bancaire, mais sinon le mieux, c'est par virement bancaire. C'est ce que tu conseilles.
Bon, c'est ce que je conseille. Bon, c'est vrai que la loi ne contraint pas le mode de paiement. Dans la loi, nous avons le droit de pouvoir payer les loyers par tout mode de paiement, mais il est important d'exiger une quittance, donc un reçu. Si jamais vous voyez que votre propriétaire ne vous donne pas de quittance ou de reçu à chaque fois que vous payez votre loyer, dans ce cas, arrêtez le mode de paiement par espèce, parce que vous auriez du mal plus tard en cas de préoccupation,
de justifier
de votre paiement. Donc, quand vous voyez que le propriétaire ne réagit pas, qu'il ne donne pas vos quittances, payez par tout autre type de moyen, que ce soit chèque, virement ou bien par transfert d'argent locaux.
Le plus important dans ces histoires de biens immobiliers, de location et tout, c'est de laisser des traces, comme tu le dis.
C'est très important. Ce qui fait que même nous, ce que nous faisons, dès qu'un locataire, par exemple, rentre dans un bien, une maison, on va faire très simple, nous faisons un état des lieux.
Oui.
Donc, ça nous permet de savoir exactement qu'est-ce qu'il y avait dans le bien. Est-ce qu'il y avait des robinets, des ampoules? Est-ce que le mur était bien fait ou pas? Est-ce que la peinture était blanche, bleue, rouge? Peu importe. Et tout est écrit dans ce document qui s'appelle état des lieux.
Oui.
Et à sa sortie, encore, on fait un point. Et là, on saura tout de suite quels sont les travaux qui sont à la charge du locataire et ou du propriétaire. Pourquoi ? Parce que des fois, il y a des locataires qui rentrent, qui entretiennent très bien les maisons. Et malheureusement, les propriétaires refusent de remettre le dépôt de garantie initiale qu'ils ont donné.
Et ça, je l'ai vécu une fois.
Sous motif qu'il y a des travaux à faire.
C'est ça.
Mais vous n'avez rien pour justifier que tels travaux n'avaient pas été faits dès le début et que vous avez pris le bien en état de cause. Dans l'autre sens, on a des locataires qui partent et qui ne veulent pas faire les travaux alors que l'état des lieux stipule clairement qu'à l'entrée, le bien était en bon état.
Mmh.
Bon, déjà, dans la loi, il faut savoir une chose. Quand même, il n'y a pas d'état des lieux écrit, la loi estime que le locataire a pour obligation de jouir du bien et de prendre soin en bon père de famille.
Bien sûr.
Ça veut dire s'assurer qu'il n'y ait aucune dégradation à son départ. Voilà.
Et même s'il y a des modifications, ces modifications doivent être, vous devez informer le locataire si vous avez peut-être des petites modifications à faire, installer des climatiseurs et tout ça.
Avec l'agence. Cas par cas.
C'est ça.
L'agence immobilière, par exemple, va informer le locataire que bon, d'accord, on va faire des travaux, par exemple, de toiture.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a peut-être des infiltrations.
Mm-hmm.
Donc, on va prendre ses disponibilités, ils vont venir faire les travaux. Il peut aussi y avoir des cas où les travaux peuvent prendre 50 ou 60% de tout le bien. Donc, on trouve un arrangement avec le locataire pour lui permettre soit de libérer les lieux, ou bien s'il reste dans les lieux, on réduit carrément le montant du loyer.
C'est ça.
Voilà.
C'est bon à savoir. Et ce que je disais, il faut toujours faire appel à une agence immobilière pour
agréer.
Éviter agréer, très important, pour éviter des désagréments que vous pourriez. En tout cas, on ne le souhaite pas, mais que vous pourriez rencontrer avec des propriétaires de biens ou avec des locataires, par exemple, parce que le rôle, en tout cas, l'un des rôles, des nombreux rôles de cette chambre du droit des affaires de l'immobilier, c'est de vous accompagner, c'est de vous conseiller, c'est de vous guider et c'est surtout aussi de faire de la médiation en cas de litige.
Et sécuriser, vous accompagner dans la sécurisation de votre,
votre bien.
Votre bien.
Exactement. Parlons des villes nouvelles. On voit beaucoup de projets de villes nouvelles. Dernièrement, j'étais sur le site des architectes Kofi et Diabaté et j'ai vu également le projet de ville nouvelle à Ebra, donc la zone entre Bégerville, Bassam et tout, une sorte d'île là, et Loka. Et il y a même des projets de villes nouvelles à l'intérieur du pays, quand je parle de Songon, même certainement à Yamsoukro et tout
Yamsoukro
ça.
Yamsoukro en cours, oui.
En cours également. C'est quoi une ville nouvelle? Et qu'est-ce que tu penses de ces projets de ville nouvelle? Qu'est-ce que moi, par exemple, en tant que peut-être personne intéressée à peut-être acquérir un bien dans ces villes nouvelles, qu'est-ce que je dois savoir? C'est quoi une ville nouvelle? Et qu'est-ce que ça va changer? Quelle donne ça va changer dans le milieu, le paysage de l'immobilier en Côte d'Ivoire?
Au fait, le principe des villes nouvelles vient de l'externalisation, c'est-à-dire la décentralisation du moins. Donc aujourd'hui, les villes nouvelles, ce sont des projets qui propose un nouveau cadre de vie confortable, plus agréable, avec tout ce qu'il faut dans la ville pour permettre aux différents habitants de pouvoir vivre de manière paisible. Une ville nouvelle, c'est une ville où aujourd'hui, on va faire, je prends un exemple très simple pour que tout le monde comprenne, faire un petit Abidjan. Mmh. C'est-à-dire dans la ville nouvelle, on aura une zone résidentielle, une petite zone administrative, une zone de loisirs. Donc c'est vraiment ça, c'est penser la ville autrement.
Mmh.
Et vu qu'Abidjan est largement saturé,
totalement,
aujourd'hui, les projets commencent à se descendre. Enfin, ces projets commencent à venir, au fait. Mais il ne faudrait pas oublier que lorsqu'on parle de ville nouvelle, il faut s'assurer qu'il y ait tout ce qui est voirie.
C'est ça.
Voirie et réseau divers présents, mais surtout le transport.
Oui.
Parce qu'une ville aujourd'hui qui est à Ebra, comment je fais pour revenir sur Abidjan?
Oui.
Si c'est trop compliqué dans ce cas, il faut vraiment réfléchir à mettre tout en place dans cette ville de telle sorte que le citoyen lambda n'a pas forcément besoin
de venir
sur Abidjan constamment, ne serait-ce que pour faire des courses ou des démarches administratives. Donc c'est vraiment ça l'idée de la ville nouvelle, c'est de mettre tout en place de telle sorte que le citoyen lambda soit vraiment à l'aise.
Qu'il ait tout à disposition dans cette zone.
Voilà.
Et j'espère aussi que dans ces projets de ville nouvelle, on va penser aux piétons, parce que malheureusement, Abidjan n'est plus fait forcément pour les piétons, parce que les voies, la chaussée qui est prévue
des
pour les piétons,
qui sont derrière les
exactement.
Projets.
Exactement.
Parce que, bon, j'ai fait un peu d'architecture, parce que j'étais à l'ISA et tout, mais pour moi, une ville nouvelle, c'est une ville où on doit penser vert.
Ouais. Écologique.
Environnementale.
Mm-hmm.
C'est-à-dire confort, que ce soit pour les déplacements, qu'il y ait tout ce qui est économie d'énergie, que le citoyen puisse trouver tout ce qu'il lui faut. mais qui ait moins de pollution.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de pollution. Donc, il y a moins de pollution et que déjà, la maison, par exemple, où le citoyen va vivre, soit habitable.
Oui.
C'est-à-dire suffisamment aérée, suffisamment ouverte, éclairée, avec tout ce qu'il faut comme moyen interne pour faciliter la vie. Aujourd'hui, on a des équipements électroniques qui pourraient permettre facilement de ne plus trop se déranger pour ouvrir les fenêtres, les portes.
La domotique.
La domotique, merci. On a aussi tout ce qui est en matière d'économie d'énergie. Nous sommes un pays africain. Des fois, je suis un peu désolée quand je vois qu'on n'a même pas suffisamment de systèmes photovoltaïques.
Oui.
Avec, ça me peine.
Et pourtant, il y a des structures dont le business est de commercialiser des plaques photovoltaïques. Et quand tu regardes le coût des maisons, et on avait même reçu un invité dans le Live Talk, dont c'était la spécialité, un chercheur, et maximum le coût d'installation pour une villa, c'est 8 millions. C'est-à-dire qu'avec ça, on est à près de 100%, c'est ce qu'il disait, 100% d'autonomie. Il
a plein de clients, c'est vrai,
ici, voilà quoi.
Et c'est vrai que quand on regarde certains pays, je prends par exemple Dubaï, c'est le désert, c'est vrai, mais pour alimenter Dubaï, il y a des champs, photovoltaïques dans le désert.
Ouais.
Et pourquoi pas nous, en Côte d'Ivoire, on ne pourrait pas penser à ça, prévoir, voir dans quelle mesure, bien évidemment, s'associer avec les compagnies d'électricité.
Bien
je
sûr.
Pense que ça doit certainement
jouer là-dessus.
Donc, trouver la formule pour permettre, pourquoi pas même à ceux qui ont les moyens, qui n'ont pas les moyens du moins à l'intérieur du pays. Ce n'est pas tout le monde qui a le courant, qui a l'électricité. Donc, pourquoi ne pas partir sur cette option-là pour permettre aux différentes populations de pouvoir avoir accès à l'électricité, enfin des logements suffisamment décents et électriques.
Et écologiques.
Logique.
En tout cas, on sent que les choses bougent énormément dans ce secteur. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de projets, donc quand on parlait.
Énormément
de projets. Et forcément, les agences immobilières auront encore beaucoup plus de clients parce que la ville d'Abidjan s'étend.
Nous les attendons.
Les villes de l'intérieur du pays sont en train d'avoir des villes nouvelles qui sont en train d'être construites, des promotions immobilières également. Oui. Donc, votre portefeuille va augmenter. En tout cas, ça présage de beaucoup de choses. Est-ce que tu as un dernier mot, un dernier conseil pour nos auditrices et nos auditeurs en ce qui concerne la gestion de patrimoine, bien immobilier, tout ce qu'ils doivent savoir, un dernier mot?
D'accord, donc mon message s'adresse à toute personne qui est vraiment intéressée par l'immobilier, qu'il soit investisseur ou acteur clé. Je voudrais vraiment inviter toutes ces personnes-là à aujourd'hui travailler dans la légalité. Parce que nous avons un cadre légal, nous avons un code de la construction, nous avons des entités administratives qui nous accompagnent au quotidien. Donc, c'est de vraiment travailler dans la légalité. Et au niveau des agences immobilières, toute personne qui n'est pas encore agréée, vous allez les inviter à être agréée. Aux propriétaires, ne confiez plus vos biens à vos cousins, à vos neveux, à vos gardiens.
Ça se garde toujours.
Il y a des agences immobilières qui vont être là, enfin qui sont là, nous sommes là, vous accompagner dans votre projet. Parce que vous savez, l'immobilier, c'est un héritage. C'est un héritage et ce serait dommage de s'investir pendant sa vie et puis de voir cet héritage être, je veux dire, perdu au bout de quelques années, faute de bonne gestion, faute d'entretien. Et je voudrais aussi inviter les populations qui veulent acquérir, ne lancez pas votre projet avec des personnes qui ne sont pas du métier. Vous voulez investir, aujourd'hui les agences immobilières agréées sont là, nous sommes là pour vous conseiller, vous accompagner dans tous vos projets immobiliers, que ce soit de la mise en vente, de l'achat, de la vente, ou bien même de l'évaluation, nous sommes présents pour vous. Voilà, donc je voudrais aussi inciter mes confrères et mes consoeurs à se former, parce qu'on ne finit pas d'apprendre.
Exactement.
À se former, pourquoi? Parce que la ville bouge, le monde bouge, l'immobilier bouge. Toutes les activités que nous menons, c'est par la formation que nous pouvons acquérir encore plus de connaissances pour être efficaces sur le terrain. Et à ceux qui ne sont pas agences immobilières agréées, par exemple les démarcheurs, je me permets de parler d'eux. Je sais que parmi eux, il y en a certains qui sont intéressés, donc ils peuvent prendre attache avec la chambre, voir dans quelle mesure ils peuvent obtenir leur agrément, mais aussi se faire former en amont et ensuite avoir leur agrément en tant qu'agence immobilière.
Merci Carole,
merci infiniment.
Merci infiniment pour cet échange très instructif. Je pense que certainement vous allez le réécouter, l'écouter, le garder. Vous allez le trouver également sur le site web en podcast pour ceux qui ont des amis qui ont envie d'écouter. N'hésitez pas à partager le message. Nous étions sur Woman Up. Vous êtes bien sur la 107.7 sur Life Radio. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Merci Carole, merci, c'est un plaisir de te recevoir. Merci. Et on se dit à bientôt. On reste connecté, on ne change surtout pas de fréquence. Ciao.